Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
Sur Radio Présence. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose, l'émission jeune de Radio Présence. Et pour accompagner ce début de soirée ensemble, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Mathéo. Bonsoir Mathéo. Mathéo qui n'est pas encore là d'ailleurs. De Léopold et de Louis-Marie. Bonsoir les gars, comment ça va?
Salut Enzo.
Salut, ça va?
Ouais, ça va super. C'est la rentrée, donc on reprend les bonnes habitudes ensemble jusqu'à 20h avec au programme ce soir un invité. Martin Becker qui est séminariste pour le diocèse de Cahors. Vous aurez aussi comme chaque soir la chronique de Louis-Marie. Louis-Marie, cette semaine tu vas nous parler de qui?
Alors cette semaine je vous propose deux petites chroniques, une première sur quelques saints qui ont été canonisés récemment et un peu plus tard sur Saint John Henry Newman.
Voilà, des chroniques qui promettent d'être très très intéressantes et qu'on va retrouver dans quelques minutes entre 19h15 et 19h45. Puis on retrouvera aussi Emma Bernard Guérin depuis Paris qui nous rediffusera une chronique sur la politique. Voilà, le sommaire est lancé, encore une émission en votre compagnie. Soif d'autre chose, c'est parti. Et pour démarrer ensemble cette soirée jusqu'à 20h, je vous propose d'écouter justement cette chronique faite par Emma Bernard-Guérin, qu'on remercie, qui est étudiante en école de journalisme à Paris, en alternance pour le groupe Canal+, qui ce soir encore va nous parler de politique.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Présence pour notre nouvelle chronique. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet essentiel, celui du silence et de la place que nous lui laissons dans notre vie. Le silence est-il devenu un luxe? On dit souvent que le silence est d'or, mais aujourd'hui il vaut peut-être encore plus cher. Dans un monde saturé de notifications, de musique d'ambiance, de paroles en continu, le silence n'est plus seulement rare, il est presque suspect. En effet, quand il s'installe, nous nous empressons de le combler, par peur peut-être de ce qu'il pourrait révéler. En effet, le philosophe Blaise Pascal lui-même l'avait bien vu en disant « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Rester seul, sans bruit, sans agitation, là est notre problème aujourd'hui. Là est la manière que nous nous confrontons. Cela nous confronte à nous-mêmes et parfois même à Dieu. Le silence, c'est devenu d'abord une épreuve pour nous au XXIe siècle. En 2025, avec tout ce qui nous entoure, que ce soit le bruit ambiant dans le métro, dans nos bureaux, notre musique au quotidien, la télé, les écrans. Mais le silence, c'est d'abord une épreuve, mais qui peut nous permettre de nous rapprocher de l'essentiel, nous rapprocher de Dieu. Parce qu'il met à nu, il nous dépouille du bruit extérieur, mais aussi en priorité de notre propre bavardage intérieur. Et c'est justement dans cette nudité-là que commence la prière. La vraie prière, celle dont Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle définit l'oraison comme un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimé. Mais pour cela, il faudrait déjà que l'on accepte le silence, le laisser nous travailler, nous vider, nous apaiser, et non pas le combler. C'est ce qu'un philosophe appelle la fatigue du bruit. Notre époque souffre de ne plus savoir se taire. En effet, qui ne s'est pas senti déjà pleinement fatigué et lessivé après une journée de boulot passée au téléphone entre plusieurs écrans tout au long de la journée et des heures? Mais ce silence, lui, devient alors un acte de résistance, un choix spirituel, un choix personnel, un retour au cœur à cœur. Car dans le silence, Dieu nous parle. Pas par des mots, mais par une présence, sa présence réellement. Le prophète Élie, sur le mont Horeb, ne le rencontre ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Cette brise, c'est le souffle de Dieu, discret, mais vivant, auprès de nous. Et pour l'entendre, il faut tout d'abord que tout le reste se taise. Nous vivons à une époque où le silence se vend. Se vend d'ailleurs même à prix d'or. Des retraites de déconnexion, des stages de méditation, des séances de yoga, des cabanes sans wifi dans les arbres. Mais le vrai silence, celui de l'oraison, lui ne coûte rien. Il demande une seule chose, du temps offert au Seigneur. 5, 10, 15 minutes chaque jour où l'on dépose tout, à ses pieds. Où l'on s'assied simplement devant Dieu, comme un ami devant un ami, sans vouloir faire sa prière, mais simplement être là, être en sa présence. Ce silence-là, ce n'est pas un vide, non, mais c'est une plénitude, bien au contraire. Il ne nous isole pas, il nous relie à Dieu, et peu à peu, il nous transforme. Comme le dit saint Jean de la Croix, le Père n'a prononcé qu'une seule parole, son Fils. Il l'a dit éternellement, dans un silence éternel. Alors oui, le silence est devenu un luxe aujourd'hui, mais c'est un luxe que le chrétien doit absolument méditer, s'offrir et garder au fond de son cœur. C'est un luxe que chacun peut s'offrir, à chaque instant s'il le veut vraiment. Alors la vraie question peut être celle-ci. Dans nos journées, pleines de bruit et d'écran, laissons-nous vraiment encore une place à ce silence où Dieu pourrait doucement venir nous parler? Je vous laisse y réfléchir. Bonne journée à vous. Présence.
Et il est arrivé en direct à l'antenne pendant la chronique des morts.
Applaudis Mathéo. Merci, standing ovation, c'est voilà. Vraiment, ça fait plaisir. C'est
Mathéo qui est enfin là. Alors Mathéo, en retard parce que les études...
Ah ouais, le travail. Hein.
Les travails.
C'est les examens demi-semestre en ce moment, donc ça fait pas plaisir.
Ceux qui passent leur partiel.
Ouais, c'est ça, nous pas encore. Toi, c'est le cas pour toi Mathéo?
Ouais, jeudi là, j'ai pas mal d'échéances.
Et moi, vendredi aussi.
Vendredi, mais bon courage en tout cas à tous les étudiants qui passent leur premier partiel. Pour d'autres, c'est le cas. Pour d'autres, c'est le cas. Et avant de se retrouver, retrouver Louis-Marie pour sa chronique, on écoute Maître Gims et Vianney. Très bonne soirée sur Radio Présence.
Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, on prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Bah, c'est la même.
Hey, aïe, 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 aïe
prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur.
Sur Radio Présence, il est temps de retrouver Louis-Marie pour sa chronique hebdomadaire. Alors Louis-Marie, nous prenons la direction de Rome, non pas pour la déclaration de docteur de l'église de Newman, mais pour la dernière canonisation qui a eu place Saint-Pierre.
Et oui, tout à fait, donc on revient un peu en arrière, le 19 octobre dernier, où notre pape a canonisé 7 nouveaux saints pour notre église, dont que je vais essayer de vous les présenter un petit peu, un par un. Assez brièvement, en commençant par Saint Ignace Maloyan, qui est né en Turquie en 1869. Il a été évêque de la ville de Mardin. En 1915, lors du génocide des chrétiens d'Arménie dans l'Empire ottoman, il a refusé de renier sa foi et de se convertir à l'islam. Pour ce témoignage de fidélité au Christ, il a été arrêté, torturé puis exécuté, ce qui fait de lui un martyr qui est mort pour la gloire de l'Église. Ensuite, on continue avec Sainte Vincenza Maria Poloni, religieuse italienne. Elle a fondé la congrégation des sœurs de la Miséricorde de Vérone, Créée au 19e siècle, cette communauté vise à venir en aide aux personnes malades, âgées et démunies. De droit pontifical, cette congrégation est encore active aujourd'hui. On enchaîne avec Sainte Maria Troncati, religieuse italienne elle aussi, membre de la congrégation des filles de Marie Auxiliatrice. Elle a été infirmière pendant la Première Guerre mondiale avant de devenir missionnaire en Amazonie. Elle a consacré sa vie à soigner les malades, à éduquer les enfants, et elle a tenté d'évangéliser les peuples autochtones. Ensuite, une sainte assez intéressante, Sainte Maria del Carmen Rendiles Martinez, qui a suivi une formation religieuse de 1927 à 1929, avant de revenir travailler dans son pays natal du Venezuela. Là-bas, elle a activement contribué au développement de la congrégation des servantes de Jésus.
Et il paraît que cette sainte a un lien avec la ville de Toulouse.
Et oui, tout à fait, parce que sa formation religieuse entre 1927 et 1929, elle a faite à Toulouse, dans notre ville rose, où elle a effectué son noviciat. Elle a vécu pendant un moment à la rue de la Dalbade et se rendait assez souvent avec ses sœurs à la chapelle Saint-Jean-Baptiste. On poursuit avec Saint Peter Torot. Né en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est connu pour avoir été un catéchiste dévoué. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été arrêté et emprisonné par les autorités japonaises pour avoir refusé d'abandonner la foi catholique. Torturé en raison de sa religion, il a perdu la vie dans les camps et est mort en martyr. Reconnu pour son courage, il est devenu par la suite un des premiers bienheureux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensuite, on termine avec deux saints, dont Saint Bartolo Longo, fondateur de la congrégation de Notre-Dame du Rosaire. Bartolo Longo s'est éteint en 1926. Converti sur le tard après une vie mouvementée et proche des milieux occultes, il s'est distingué par une dévotion profonde à la Vierge Marie. Il a même fait édifier un sanctuaire dédié à la Mère de Jésus à Pompéi, en Italie, qui est devenu aujourd'hui un lieu de pèlerinage mondialement connu. Et donc pour terminer, Saint José Gregorio Hernández Cisneros, originaire du Venezuela, il a été surnommé le médecin des pauvres pour son dévouement envers les plus démunis. Animé d'une foi profonde, il rêvait de devenir prêtre, mais à cause de problèmes de santé, il s'est plutôt orienté vers la médecine. Il a perdu la vie en 1919, victime d'un accident de la route. Et donc voilà pour ces sept saints qui ont récemment été canonisés, que l'Église nous donne maintenant de pouvoir prier, et donc on peut demander leur intercession. Et on remercie chaleureusement notre pape pour cela.
Un grand merci aussi à Louis-Marie de nous avoir fait découvrir ces nouveaux saints de l'Église catholique. Et d'ailleurs, pour une belle transition musicale, on va écouter les saints et les saintes de Dieu. Et on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Martin Becker, séminariste pour le diocèse de Cahors.
Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leur signe de joie, ils élèvent sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance, de
So
19h20 sur Radio Présence. Nous sommes de retour aujourd'hui avec notre invité Martin Becker, 23 ans, séminariste pour le diocèse de Cahors. Bonsoir Martin.
Bonsoir Enzo.
Alors Martin, tu es séminariste pour le diocèse de Cahors, en stage intercycle actuellement, en insertion à la paroisse de Saint-Céré. Merci d'être notre invité en direct jusqu'à 19h40 avec moi autour de la table Léopold, Louis-Marie et Mathéo. Alors pour commencer Martin, quand est-ce qu'est né cet appel vocationnel?
Alors c'est en plusieurs étapes parce que c'est vraiment un chemin, mais sans doute la première fois dans l'enfance, un premier sentiment dans l'enfance, en tout cas le sentiment aigu de la volonté d'être ami avec Jésus. Je savais pas encore trop comment ça allait se traduire, mais voilà, une première fois dans l'enfance, et puis avec des hauts et des bas, et puis un choix plus personnel à 20 ans.
Donc aujourd'hui, tu peux nous rappeler l'âge que tu as pour nos auditeurs, s'il te plaît ?
J'ai 23 ans.
Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le séminaire ?
Alors, le séminaire, étymologiquement, ça veut dire pépinière. C'est là où on entrepose les jeunes pousses. L'idée, c'est un lieu de formation pour discerner un appel à la prêtrise et puis également pour former les futurs prêtres. Ouais. Voilà, il y a un peu ce double aspect, ce double temps de discernement, qui est à la fois un discernement de l'Église, un discernement de l'appel de Dieu en lui-même, et puis un discernement de notre propre volonté, puisque nous sommes libres dans ce choix, puisque la liberté est la condition de l'amour, et que Dieu veut qu'on l'aime. Et ensuite, il y a cet aspect de formation, où on apprend les ficelles du métier.
Oui.
Voilà.
Très bien. Et combien de temps ça dure à peu près ?
Alors, comme c'est une relation, ça varie en fonction des personnes, mais disons qu'il y a une certaine constante sur 7 ans d'études en moyenne. Voilà, divisé en deux cycles.
Ouais.
Un cycle de philosophie. Donc d'abord, une toute première année qui est la propédeutique, un temps de discernement.
Ok.
Ensuite, 2 ans de philosophie pour voir comment comment l'homme a envisagé le divin avec sa propre raison, avec cette marque de Dieu en nous. Mmh. Puis ensuite vient pour certains un temps de stage, c'est mon cas, où on va, alors le stage peut varier en fonction des personnes, mais affiner tel ou tel aspect en accord avec le conseil. Et enfin, 3 ans de théologie, où là on voit vraiment comment Dieu s'est révélé à l'homme, le mouvement inverse. Après, comment l'homme a pensé Dieu, comment Dieu se révèle à l'homme. Et donc évidemment, un cycle qui apporte beaucoup de réponses par rapport au premier qui apporte beaucoup de questions. Mais enfin, après ces années de théologie, on fait ce qu'on appelle l'année diaconale, où on devient diacre et puis enfin prêtre.
D'accord.
Et j'imagine du coup que tu as d'être en année de théologie pour répondre à toutes ces questions auxquelles que t'ont posé les années de philosophie.
C'est sûr que la théologie, j'imagine qu'elle doit avoir ça de satisfaisant. Donc j'y suis pas encore, je sais pas encore trop à quoi m'attendre, même si je peux regarder vers les grands frères du second cycle et entendre un peu leurs débats à table au séminaire. Mais oui, il y a une certaine attente. Et puis, ce qui est chouette aussi, si je puis dire, c'est qu'on apprend durant 7 ans tout ce qu'on va retransmettre dans la suite de notre vie. Bien qu'on va continuer à se former de notre côté, les bases solides sont quand même données là au séminaire. Et donc, c'est un moment important où il est bon d'avoir en tête ceux à qui nous serons envoyés.
Et c'est presque effrayant. On se dit, oh là là, faut emmagasiner plein de choses parce qu'après, il va falloir répondre aux questions trop bizarres des, souvent des jeunes catéchumènes qui nous posent des colles et on se dit, comment on va répondre à ça?
Il peut y avoir de ça. Après, heureusement, il y a l'Esprit Saint qui inspire beaucoup, le nombre de prêtres qui racontent avoir répondu à telle ou telle question sans trop savoir quoi répondre et où les gens ont été finalement touchés. On voit que c'est quand même l'Esprit Saint qui est à l'œuvre et qui nous précède quand les questions sont trop bizarres. même en général.
Et alors, moi, Martin, moi, j'aimerais te poser une question. De plus en plus, on voit donc qu'il y a des vocations, notamment dans les communautés religieuses. On pense par exemple à la communauté Saint-Martin ou d'autres communautés, voire même des monastères ou même chez les dominicains. Pourquoi toi avoir fait ce choix d'une vocation dans un diocèse et puis de plus dans un diocèse comme Cahors, un diocèse qui est assez rural, assez âgé. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce choix-là?
C'est une très bonne question. C'est vrai que l'appel diocésain, c'est un appel particulier aujourd'hui où on a l'habitude de voir des séminaristes de communauté. D'ailleurs, le réflexe aujourd'hui, quand on dit qu'on est séminariste, souvent, c'est de nous demander de quelle communauté. Il s'avère que moi, je crois profondément que l'homme est fait pour s'inscrire dans un tout qu'il dépasse, et ce tout, ben, il se traduit par des choses concrètes. Sinon, on finit par se perdre. Et ces choses concrètes, eh bien, c'est un lieu, une terre, un temps donné, une époque. Et donc, si moi j'ai choisi le diocèse de Cahors, c'est que vraiment cette terre-là de Cahors, où j'ai grandi depuis mes 14 ans, parce que je ne suis pas natif du diocèse de Cahors, mais cette terre-là m'a beaucoup apporté. Et je la connais. J'en connais les, pour ainsi dire, les sentiers, le tempérament des personnes qui y sont. Et un peu à rebours de ce temps où tout se vaut et où on peut vivre un peu sa vie d'une certaine manière dans les aéroports ou sur les autoroutes, avec une vie qui bouge beaucoup, revenir à quelque chose de stable, à une certaine stabilité topographique, hein, ben je pense que c'est un signe pour ce temps qui est en manque de repères. En fait, même le repère spatial, on l'a perdu d'une certaine manière. Et pour moi, l'appel diocésain, il est vraiment inscrit là-dedans. C'est-à-dire, quand je dis l'appel diocésain, ça annule un peu mon propos, au sens où moi, je me sens pas appelé à être diocésain ailleurs. En fait, je me sens appelé à devenir prêtre pour le Lot. Donc, on devrait presque dire un diocésain du Lot, sinon c'est faire du diocèse une communauté, si je puis dire. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'être implanté dans un lieu auprès de personnes concrètes, auprès de gens concrets, et de travailler en sachant aussi que d'autres m'ont précédé sur ce lieu, l'ont aimé, et d'autres en fait suivront après moi, ce qui peut donner un peu le vertige, et en même temps c'est vraiment comme une histoire d'amour. C'est d'autres ont été là avant moi, d'autres arriveront après moi, et moi je me donne au Lot dans ce temps-ci, ici très concrètement.
Une forme aussi de rendre ce qu'on t'a donné aussi, peut-être dans l'enseignement, dans les sacrements aussi, de pouvoir maintenant servir dans le Lot toi aussi à ta place.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est vraiment ça, rendre à cette terre qui m'a donné et chercher aussi à l'améliorer. C'est comme le verger. Vous savez, quand on fait un verger, eh bien, il faut récolter les fruits, ça, on le comprend bien, mais il faut aussi replanter les arbres après qu'ils aient vieilli, pour que la génération d'après, parce qu'un pommier, en fait, ça met du temps à grandir, mais pour que la génération d'après puisse elle-même récolter des fruits, et ainsi de suite. Et parfois, on a la logique de manger les fruits, de manger, de consommer là où on se trouve, sans penser à l'après, sans penser à ceux qui viendront après nous, et sans penser à replanter. Or, en restant concrètement dans un diocèse, j'ai reçu les fruits de ce diocèse dans l'enfance, en grandissant notamment dans l'enseignement catholique, et puis je rends aujourd'hui pour que d'autres puissent également en bénéficier. Et je crois que c'est important.
Louis-Marie, peut-être ?
Oui, moi je voulais un peu rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait donc de la formation sur un plan un peu académique, mais j'imagine que si on veut devenir prêtre et être un prêtre, un vrai pasteur, on doit aussi recevoir une certaine formation humaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi présent dans l'enseignement qu'on reçoit pendant ces années de séminaire?
Oui, tout à fait. La formation au séminaire, elle repose sur quatre piliers. Un pilier de vie fraternelle, de vie donc de vie communautaire, de vie intellectuelle, de vie spirituelle, donc vie fraternelle, vie intellectuelle, vie spirituelle, et puis dimension humaine, évidemment. Et donc l'idée, c'est d'acquérir une colonne vertébrale pour être pasteur d'une communauté, Et cette colonne vertébrale, elle nécessite d'être avant tout, avant d'être un séminariste, avant d'être prêtre, d'être un homme bien dans sa peau, un homme bien dans ses relations. Et donc lui, effectivement, il y a un grand rapport à, il y a un grand rapport à l'humain, à la dimension humaine en tout cas. Et elle peut se traduire plus concrètement par les pères du conseil, qui vont observer un peu notre comportement au quotidien, sans nous espionner, loin de là, hein, mais qui vont un peu regarder comment on, le savoir-être, simplement, le savoir-vivre, etc., et pouvoir nous faire telle ou telle remarque de points d'amélioration, discerner les choses à corriger, sans doute, ou les petits défauts, les points de vigilance pour la suite. Et il y a aussi la vie fraternelle qui vient beaucoup nous faire grandir là-dessus, parce que la vie fraternelle, c'est quand même un lieu où on doit mettre pas mal d'eau dans son vin si on veut que ça se passe bien, et où on repense en fait nos priorités. C'est-à-dire que telle chose qui me tient à cœur, si elle vient à, ben en fait, à contrarier des membres de la communauté, à mettre une mauvaise ambiance, est-ce que ça en valait tellement la peine, par exemple ? Voilà, ce genre de petites choses qui viennent nous affiner, nous polir.
Très bien, alors pour parler de choses très concrètes, peut-être pour ceux qui seraient intéressés pour rentrer au séminaire, comment ça se passe une journée en fait au séminaire ? Est-ce que c'est comme à la fac ? Est-ce qu'il y a des CM ? Est-ce qu'il y a des TD ? Est-ce qu'il y a des matières, des profs différents ? Dis-nous-en un peu plus là-dessus.
Alors, chaque séminaire a son fonctionnement propre, même s'il y a des constantes. Moi, je peux vous témoigner, pour Toulouse, donc on se lève le matin, on a un temps d'oraison communautaire à 6h45, une demi-heure d'oraison jusqu'à 7h15. L'oraison communautaire, c'est un lieu important parce que si on se soutient dans la vie communautaire, et comme je viens d'en parler, eh bien il est nécessaire qu'elle soit accompagnée de prières, puisque Dieu veut venir habiter toutes les dimensions de notre vie, et y compris notre vie communautaire. Donc voilà, c'est cette prière communautaire de 6h45 à 7h15, donc la prière de l'oraison, une prière en silence. Ensuite, nous avons les laudes, toujours en communauté, suivi du petit déjeuner. Et puis de 8h30 à 12h30, des cours. Alors pour les premiers cycles, directement au séminaire, et pour les seconds cycles, à l'Institut catholique. Et effectivement, les cours ressemblent à ce qu'on peut connaître par ailleurs dans une faculté, avec des devoirs sur table, des oraux, des devoirs longs à rendre. Il y a une grande place également laissée à la recherche, c'est-à-dire qu'un séminariste dans telle ou telle matière peut proposer un travail long sur un sujet qui lui tient à cœur, ce qui permet d'approfondir tel ou tel aspect du cours. Ensuite, après quoi, nous avons l'office du milieu du jour, vers 12h55, et puis à 13h15, le repas de midi ensemble. L'après-midi, il y a quelquefois des cours, souvent les langues. Les séminaristes font du latin, du grec et de l'hébreu. Et sinon, l'après-midi est laissé pour les études personnelles et justement le travail de recherche. Enfin, on se retrouve généralement pour la messe à 18h30, suivi du repas. Et en fonction de la journée de la semaine, la soirée peut varier. Il y a des temps de soirée libres, comme le mercredi où on sort, ou enfin on peut sortir du moins, ou le mardi soir, où on des temps plus gratuits, le mardi soir où on ne sort pas, mais il n'y a rien de prévu particulièrement en communauté. Le lundi soir est réservé à la vie communautaire, et puis le jeudi soir à l'adoration eucharistique, qui, soit dit en passant, est ouverte une fois par mois pour les étudiants, et les informations sont sur le compte Instagram du séminaire.
Ok, merci beaucoup. Moi j'ai une question, je reviens sur, tu parlais des pères du conseil, est-ce que donc ces pères du conseil qui vous suivent sur toute votre formation, est-ce que ce sont vos pères spirituels aussi, est-ce qu'ils suppléent le père spirituel, est-ce que si c'est pas votre père spirituel, est-ce qu'ils sont en lien avec, il y a des discussions, tout ça pour voilà, pour vous suivre et faire de vous des futurs bons prêtres et saints prêtres.
J'aime beaucoup, effectivement, saints prêtres, c'est bien là l'essentiel. Et oui, effectivement, parmi les pères du conseil, il y en a un qui devient notre père spirituel, donc que nous choisissons nous-mêmes. Et nous sommes d'un séminaire de tradition sulpicienne. Et dans la tradition sulpicienne, il y a un grand respect de ce qu'on appelle le fort interne, une frontière en fait entre le fort interne et le fort externe. Le fort interne, ça correspond à toute ma vie de prière, ma vie spirituelle, ma vie intérieure. dont également l'appel de Dieu, le discernement de cet appel dans mon cœur. Ça, j'en suis le seul juge, mais évidemment conseillé par le Père spirituel. Et puis, il y a le fort externe, tout le savoir-être en communauté, simplement comment on se présente, la vie plus concrète, plus courante. Et donc, les pères du conseil, il y en a un qui est choisi pour s'occuper du fort interne avec moi, donc mon père spirituel, et pour ne pas qu'il y ait d'ingérence, je dirais, entre le fort interne et le fort externe, si ce père du conseil assiste bien aux réunions du conseil, lorsque le conseil parle de moi, il n'a pas le droit de prendre la parole. Même dans les séminaires sulpiciens, on disait avant qu'il devait baisser les yeux et regarder devant lui sur la table pour ne pas influencer les autres pères dans leurs décisions. Mais l'avantage d'avoir un père spirituel qui siège au conseil, c'est que par ailleurs, dans l'accompagnement spirituel, il entend ce qui se dit de nous, il entend ce que les autres pères pensent de nous à partir du fort externe, et donc il peut mieux affiner son accompagnement pour nous. Voilà.
Ok. Ah, c'est hyper intéressant du coup. Donc lui il est là, il assiste, il écoute. En fait c'est il gaffe, il écoute tout ce qui se dit au conseil. Et après il vient te raconter comme ça. On s'arrange, on règle les problèmes. Non je rigole. Mais du coup évidemment je rigole.
Alors effectivement il me raconte pas. Oui bien sûr il me raconte pas ce qui se dit en conseil bien sûr. Mais en tout cas lui il le garde en tête et donc peut m'orienter.
Ok oui.
Dans ce sens là.
Ok. Et comment ça se passe? S'il y a une grosse dissociation, qu'il y a vraiment des choses qui se confrontent et lui, il peut s'en rendre compte, est-ce qu'il y a déjà eu des situations comme ça, comment il le gère? Genre, si lui, en entendant, ce que tu lui dis, dans vos entretiens spirituels et ce que les prêtres disent de toi au conseil, quand il voit des grosses différences, des choses qui sont compliquées à gérer, comment ça peut se passer? Est-ce qu'il vient suggérer peut-être que finalement t'es pas fait pour ça? Est-ce que c'est à lui de le faire? Est-ce que c'est au conseil de le faire?
Le père spirituel, il est vraiment là pour orienter ce qui se passe, mais la place elle est quand même vraiment mise à la liberté, au sens où lui ne prendra jamais une décision pour moi. S'il y a des grosses différences entre ce que dit le conseil et ce que moi je dirais par exemple en accompagnement spirituel, il y a peut-être un problème de ce qu'on appelle l'unité de vie. Et ce problème-là, il peut dire quelque chose de l'appel ou il peut dire quelque chose d'un mal-être à un instant T. Après, je connais pas de situation où c'est arrivé ou du moins je n'en ai jamais entendu parler. Ce que je peux dire, c'est que très souvent on a l'impression d'être, il peut arriver qu'on ait l'impression d'être mal compris par le conseil. Et finalement, on a un point fixe par année avec le père. On a deux points fixes, pardon, par année avec le père supérieur, où on reprend un peu les décisions du conseil, où on discute avec le père supérieur, et on se rend compte qu'en fait, ils nous connaissent mieux que ce qu'on peut imaginer, et que même ils nous connaissent très bien. Il faut imaginer que ce sont des personnes avec qui on vit tout le temps quand on est au séminaire, excepté les week-ends où on rentre en paroisse. Et le fait de vivre ensemble, on peut pas vraiment se cacher d'une certaine manière. Et donc, ils finissent par très bien nous connaître. Après, le père spirituel, j'imagine, peut effectivement dire... peut dire que pour lui, c'est peut-être... peut suggérer de se poser la question si la vocation diocésaine est bien la nôtre, ce genre de choses. Il n'empêche que c'est toujours au séminariste que revient la décision. L'accent est mis sur la liberté, dans le cadre de l'accompagnement spirituel. Par contre, dans le cadre du conseil... Le conseil peut très bien dire à un séminariste qu'il pense, en fait c'est ce qu'on appelle le discernement de l'Église, que ce n'est pas une voie qui est faite pour lui et l'orienter vers autre chose. À ce moment-là, ce n'est plus le rôle du père spirituel, mais le rôle du conseil.
Et pour changer un peu de sujet, mais toujours parler de la vocation et du séminaire avec toi, Martin, on voit que de plus en plus, on le voit dans les médias, que des prêtres s'investissent dans la société. Certains prêtres jouent au rugby, sont de plus en plus là dans la société. Il me semble que toi aussi, tu joues dans une équipe de rugby à Saint-Céré. Est-ce que pour toi, l'image du séminariste, du prêtre inséré dans la société est importante, et comment justement aussi concilier, on va dire, quelques mentalités qui quelquefois sont rugbystiquement incorrectes avec la foi, et comment en fait se garder préservé de ça.
C'est une bonne question. C'est sûr que les blagues au rugby, c'est pas nécessairement celles qu'on entend au séminaire, mais mais c'est intéressant de voir. C'est le pape François disait qu'il faut que le berger sente l'odeur des brebis. Et ici dans le Lot, ça tombe bien, on a beaucoup de brebis, la Cosnarde typique du Lot, et on voit que les brebis, à part l'image des dessins animés, en fait, une brebis, ça sent pas très bon. Et donc c'est intéressant. Il faut pas dire que la source de la mauvaise odeur soit le pasteur, évidemment, mais que le pasteur n'hésite pas à se mouiller pour aller là où les gens sont, parce que si on cherche à éviter à tout prix la mauvaise odeur, alors on n'est pas fait pour devenir prêtre diocésain. Le prêtre diocésain, ce n'est pas celui qui cherche à se mettre à part pour se préserver uniquement. C'est aussi celui qui a une proximité avec Dieu dans la prière et qui donc est capable, avec Jésus, de rejoindre les hommes. Et en fait, c'est la grâce de Dieu. Évidemment, il y a toujours une prudence qui est de rigueur. Mais c'est bien avec Jésus qu'on rejoint les personnes. Et il faut pas avoir peur de rejoindre ces endroits où... En apparence, on pourrait effectivement se salir. En apparence, ça peut... ça ne participe pas à la sanctification. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Et effectivement, il faut savoir être fort et dire que pour nous, telle ou telle chose ne peut pas être sujet à rire. Et que pour nous, ce sont des choses importantes. La Vierge Marie, l'Eucharistie, etc. Et que pour nous, les blagues qui portent là-dessus nous blessent. Et qu'on est capable de défendre en fait ces choses-là, ces sujets-là qui nous tiennent à cœur, ce qui donne une crédibilité à la foi. Si on est capable de dire dans le groupe, moi je suis pas d'accord avec ça, ça montre que c'est quelque chose d'important et quelque chose qui mérite qu'on y porte son attention. Et après, on y vit aussi beaucoup des belles choses malgré tout. Même le rugby, c'est quand même un lieu où il y a une vraie camaraderie, une vraie fraternité, un souci du groupe. Et à travers le rugby, c'est un bon moyen de rejoindre les gens. Bien que, au début, je me suis inscrit au rugby plutôt pour me vider la tête. Et de surcroît, le Seigneur a permis que ça touche quelques personnes dans le club. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Et en même temps, il faut savoir dire qu'on n'acceptera pas certaines choses, un certain type d'humour ou certaines blagues qui portent sur des sujets qui nous tiennent à cœur.
Et tous les joueurs savent que tu es séminariste, futur prêtre, et que quand tu seras prêtre, tu continueras à jouer dans l'équipe et tout.
Oui, alors je ne sais pas si je continuerai à jouer quand je serai prêtre, enfin j'espère, mais ça va dépendre de l'endroit où... Monseigneur m'enverra. Mais en tout cas, les joueurs sont tous au courant que je suis prêtre. L'information a assez vite fait le tour de l'équipe et j'ai reçu un très bon accueil.
Okay.
J'ai été très bien intégré et j'ai pas senti d'opposition franche à cela en tout cas.
Très bien, alors peut-être.
Et plutôt même des questions très intéressantes.
Ouais, merci beaucoup. Excuse-moi, mais alors peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais un petit mot pour quelqu'un qui envisagerait ou qui hésiterait à rejoindre le séminaire, ce que ça pourrait lui apporter, ce que ça t'a apporté peut-être toi? Voilà, un petit mot peut-être pour éclaircir ça, pour guider peut-être certaines personnes qui en auraient besoin.
Le séminaire, enfin le Saint-Curé d'Ars disait la vocation, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et je pense que pour un jeune qui a le désir d'aimer le Christ et qui sent que le Christ l'appelle à l'aimer d'une manière toute particulière, quand on sait que la jeunesse est faite pour l'héroïsme, eh bien c'est un héroïsme qui en vaut la peine. Un héroïsme loin des vidéos avec des musiques épiques qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. C'est plutôt un travail du quotidien, le fait de se lever chaque jour. Mais cet héroïsme, il nous rapproche de celui qui est la source de tout amour. Et donc si on ressent cet appel particulier, ou si on a l'impression que Dieu peut-être nous appelle à cela, eh bien ça vaut sérieusement la peine de prendre en compte cet appel et de se rappeler que c'est lui qui donne. C'est-à-dire que si on a peur, si on craint, c'est toujours par la force de Dieu et pas par nos propres forces. Et donc Dieu, s'il nous appelle, nous donnera la force d'aller au bout.
Eh bien, un grand merci à toi, Martin, et tous les auditeurs et toute l'équipe de Soif d'autre chose. Prie pour toi, pour ta vocation et pour qu'on ait de bons et de saints prêtres pour repeupler nos paroisses et nous donner les sacrements. Un grand merci à toi et à très bientôt peut-être sur les ondes de Radio Présence. Merci, Martin.
Merci, à très bientôt.
Et puis pour continuer cette émission ensemble, il est 19h46 sur Radio Présence. Quoi de mieux qu'un peu de musique et retour dans les années 80 avec Daniel Balavoine. C'est l'Aziza sur Radio Présence. On est ensemble encore jusqu'à 20h pour vous accompagner dans ce bon début de soirée. À tout de suite sur Radio Présence. Oh.
Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux.
Présence.
19h53 sur Radio Présence, on retrouve Louis-Marie pour sa chronique, une chronique où nous partons en direction de Rome. C'était ce samedi pour la Toussaint. C'était ce samedi pour la Toussaint. Newman a été déclaré docteur de l'Église.
Et oui, tout à fait. Donc samedi dernier, le pape Léon XIV a proclamé comme docteur de l'Église Saint John Henry Newman, que je vous propose aujourd'hui d'apprendre à connaître un petit peu plus. Donc il est né à Londres le 21 février 1801 dans une famille attachée à l'anglicanisme. Très tôt, il développe un goût marqué pour les études, la théologie et la tradition chrétienne ancienne, notamment à travers les pères de l'Église. Il deviendra plus tard prêtre anglican, puis s'engage dans le mouvement d'Oxford, un courant théologique et ecclésiastique né dans les années 1830 à l'université d'Oxford, situé à l'intérieur de la haute église anglicane qui s'efforce de rapprocher la théologie anglicane du catholicisme. Mais peu à peu, sa recherche absolue de la vérité l'amène à une décision radicale. Il entre pleinement dans l'église catholique le 8 octobre 1845. Il dira de cette expérience que c'est comme une arrivée au port après une mer agitée, et son bonheur à cet égard demeura intact jusqu'au jour de sa mort. Cette conversion n'est pas sans conséquence, il abandonne ses fonctions académiques, certains de ses anciens amis, ses repères, et s'engage vers un nouvel horizon. C'est un acte de foi et de conscience plus qu'un simple choix de carrière. Au-delà de ce tournant extérieur, la vie spirituelle de Newman est profondément marquée par l'intériorité, la conscience et la prière. Son motto est remarquable, cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. Pour Newman, la foi n'est jamais pure théorie, elle est rencontre, dialogue, cheminement et cheminement intérieur. Il perçoit que la vérité chrétienne engage la raison, oui, mais plus encore, le cœur et l'être tout entier. L'un de ses ouvrages, un essai sur le développement de la doctrine chrétienne, explore la manière dont la doctrine catholique se développe non pas en changeant dans ses fondements, mais en mûrissant et en se clarifiant dans le temps. Sa spiritualité, elle s'appuie sur plusieurs points, notamment la conscience personnelle. Newman insiste sur le fait que l'Église catholique est l'oracle infaillible de la vérité et que l'individu doit répondre à Dieu dans sa conscience. La prière humble et profonde, il sait qu'il ne s'agit pas de briller dans son érudition, mais de se laisser trouver par Dieu au fond de soi. La vie sacramentelle, pour Newman, l'Eucharistie est ce lieu où le cœur du Christ vit et parle, façon de dire que sa vie intérieure se nourrit de cette relation. Et la fidélité dans les petites choses, même devant les oppositions, même dans la solitude après sa conversion, il restera fidèle et persévérant.
Et alors pourquoi ce titre de docteur de l'Église est-il si significatif ?
Parce que ce titre de docteur de l'Église, il est conféré à des saints dont la vie, l'érudition et la sainteté ont laissé une empreinte profonde sur la théologie de la vie de l'Église. Ses choix soulignent plusieurs points, déjà sa capacité à articuler foi et raison, son influence dans l'éducation, la formation intellectuelle chrétienne et son exemple spirituel. Oui, c'est un intellectuel, mais avant tout, c'est un homme de prière et de conscience. Ainsi, nous considérons aujourd'hui Saint John Henry Newman, quand nous le considérons, nous voyons bien que, au-delà d'une simple conversion historique et d'un titre honorifique de docteur de l'Église, nous voyons un homme qui a cherché, qui a douté, qui a prié et qui a répondu à l'appel de l'amour de Dieu dans son cœur. Nous voyons aussi un héritage, celui de l'Église sans compromis sur la vérité, mais toujours appelé à l'accueil, à la découverte et à la croissance. Que ce soit pour celles et ceux qui sont en chemin, qui cherchent ou qui désirent simplement approfondir leur foi, Saint John Henry Newman peut être un compagnon humble et lumineux.
Un grand merci à Louis-Marie pour cette chronique sur John Henry Newman, ce nouveau docteur de l'Église. Et puis donc il est 19h57 sur Radio Présence. C'est déjà la fin de notre émission. On va se retrouver la semaine prochaine toujours avec la même équipe pour passer ce début de soirée ensemble. Bonne soirée à tous. Pour vous, c'est quoi le programme là, les gars?
Boulot
et
je vois un petit kebab.
Un petit kebab.
Tu veux venir avec moi?
On va voir ça. Mais d'ailleurs, voilà, si vous voulez retrouver Léopold, il sera au kebab. Tu peux dire quel kebab à Toulouse?
Rue Bayard.
Voilà, si vous voulez rencontrer Léopold, sauf d'autre chose, il sera rue Bayard. Très bonne soirée sur Radio Présence. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de tout le monde. Salut à tous.
Salut, merci.
À plus.
C'était Soif d'autre chose. Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.